Le journal Loïc Barrière. Le prince héritier Mohamed Ben Zayed succède à son demi-frère décédé hier à la tête des Émirats Arabes Unis. Le président Macron se rend demain à Abu Dhabi pour rendre hommage à Cheikh Khalifa. Les images des obsèques de la journaliste Shirin Abu Akleh hier ont suscité un tollé international. La police israélienne annonce l'ouverture d'une enquête sur ces incidents. La visite à Washington du roi Abdallah de Jordanie, le président Biden salue le rôle joué par Amman dans la stabilité de la région. En Algérie, un ancien dirigeant de l'UGTA arrêté dans le cadre d'une enquête pour corruption. Une marche ensemble pour la paix partira ce dimanche à 14h place du Panthéon à Paris, à la veille de la journée internationale du vivre ensemble en paix. Entretien avec Laurent Gribowski, président de la coordination interconvictionnelle du Grand Paris. Enfin, toujours à Paris, la suite du Maghreb Orient des Livres qui se poursuit jusqu'à demain à l'Hôtel de Ville en partenariat avec Radio Orient. Le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed, a été élu président des Émirats Arabes Unis. Il succède à son demi-frère, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, décédé hier à l'âge de 73 ans. Les dirigeants du Moyen-Orient et du monde ont rendu hommage au défunt, notamment les dirigeants d'Arabie Saoudite, Oman, Bahreïn, d'Égypte et de Jordanie. Plusieurs responsables libanais ont exprimé leur peine. Aujourd'hui, la nation arabe a perdu l'un de ses hommes les plus éminents, a notamment déclaré Saad Hariri, l'ancien premier ministre libanais. A noter que le président Macron se rendra dimanche à Abu Dhabi pour rendre hommage au président des Émirats récemment disparu. Les incidents hier lors des funérailles à Jérusalem de la journaliste Shirin Abu Akleh ont scandalisé à travers le monde. La foule a été violemment dispersée par la police israélienne dans l'hôpital Saint-Joseph. Le cercueil a notamment failli tomber à terre. L'Union européenne se dit consternée par un usage de la force inutile. La Maison-Blanche et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se disent profondément troublés par les images des obsèques. La journaliste palestino-américaine a été tuée mercredi lors d'un raid israélien en Cisjordanie occupée. Lors de ces obsèques, 33 personnes ont été blessées. L'une d'elles est décédée des suites de ses blessures. La police israélienne a de son côté arrêté 6 personnes. Après ce tollé international, la police israélienne annonce l'ouverture d'une enquête sur les incidents qui ont émaillé les obsèques de la journaliste. Et puis à Paris, un rassemblement pour dénoncer la mort de la journaliste a lieu ce lundi à 18h, place de la République à Paris, à l'appel de l'Union des journalistes et des écrivains arabes en Europe. La violence dans la région a fait l'objet d'une discussion entre Joe Biden et le roi de Jordanie Abdallah II, qui est en visite à Washington. À cette occasion, le président américain a confirmé le soutien indéfectible des États-Unis à la Jordanie, considérée comme un allié crucial et une force pour la stabilité au Moyen-Orient. Les Libanais appelés à voter pour leurs députés demain, des élections cruciales dans un contexte de crise économique et sociale. Il s'agit des premières législatives depuis le mouvement de contestation en 2019 et les explosions au port de Beyrouth en août 2020, un scrutin boycotté par le courant du futur de Saad Hariri. Une marche ensemble pour la paix partira ce dimanche à 14h, place du Panthéon à Paris, à la veille de la journée internationale du vivre ensemble en paix. Une initiative notamment de la coordination interconvictionnelle du Grand Paris, son président, le journaliste, auteur et compositeur Laurent Gribowski.
Cette question, elle est au cœur finalement de nos débats politiques, de nos débats électoraux, elle est au cœur de nos questions de société, elle est au cœur de ce 21e siècle qui a déjà bien commencé. La question du vivre ensemble, c'est une des questions cruciales de ce siècle, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on se rencontre de plus en plus, on se mélange, on voyage, il y a les migrations, il y a la mondialisation, il y a le fait que la planète est devenue un village global, et que dans ce village global, eh bien, des cultures et des religions et des populations qui jusque-là s'ignoraient et pouvaient vivre les unes à côté des autres sans se rencontrer, eh bien aujourd'hui vivent cette rencontre. Et il y a deux manières de la vivre, soit elle est meurtrière, parce que chacun se replie sur ses identités, soit elle est pour la paix et pour un avenir meilleur. Et donc c'est vraiment une des questions cruciales pour moi avec la question écologique. Je dirais que les deux questions cruciales du 21e siècle, c'est l'écologie bien sûr et le vivre ensemble. Voilà, c'est une des deux questions cruciales de ce début de siècle. Et donc ça me paraît extrêmement important de se battre pour que ce vivre ensemble soit pacifique, soit tolérant, soit respectueux les uns des autres et que nous entrions dans une culture de la rencontre et non dans une culture de la confrontation.
Oui, c'est l'un des éléments clés de ce vivre ensemble, la rencontre, le dialogue également.
Moi, je préfère le mot rencontre au mot dialogue, parce que dialogue, ça peut laisser entendre qu'il y a on va dialoguer pour se mettre d'accord, pour faire des négociations, pour faire de la théologie, voir ce qui nous rassemble. Bon, pourquoi pas? Mais moi, je crois davantage, encore plus que le dialogue, je crois à la rencontre, c'est-à-dire accepter que l'autre existe pour ce qu'il est, que moi, je peux exister moi aussi. C'est la coexistence active, un concept qui a été bien développé par l'association Coexister, que vos auditeurs connaissent certainement, et je pense que la coexistence active, c'est l'idée de dire voilà, je suis heureux que tu existes, tu es différent de moi, mais tu as le droit d'exister, et moi j'ai le droit d'exister aussi, et nous existons ensemble, d'où le terme coexister. Donc je crois beaucoup à cette coexistence active, et il se trouve que pour nous Français, en plus, c'est une manière de vivre la laïcité, de faire vivre la laïcité, un cadre juridique qui permet justement cette coexistence active. Donc je crois beaucoup à se vivre ensemble aussi à cause de ça.
Une coexistence active qui va au-delà du dialogue interreligieux.
Qui va au-delà du dialogue interreligieux pour deux raisons. D'abord, la première, c'est celle que je viens de développer, c'est que je crois qu'il ne s'agit pas simplement de dialoguer pour se mettre d'accord sur je ne sais quel point. Il s'agit d'abord de se rencontrer pour devenir des amis. Voilà, c'est... Moi, je crois beaucoup à la rencontre pour devenir des amis, voilà. Et quand on est des amis, bien sûr, on dialogue. Ça va avec, bien entendu. Et puis, ça va au-delà du dialogue interreligieux parce que nous pratiquons ce qu'on appelle aussi le dialogue interconvictionnel. Alors, qu'est-ce que c'est que le dialogue interconvictionnel? Le mot peut paraître un peu barbare, mais c'est un mot qui vient d'Amérique du Nord et du Québec, du Canada. C'est le dialogue interreligieux, finalement, élargi à toutes les convictions, convictions philosophiques, humanistes, aux athées, aux agnostiques, à des gens qui croient au ciel et à ceux qui n'y croient pas. Voilà, donc c'est l'idée d'élargir le dialogue interreligieux, puisque le but, pour moi d'ailleurs, du dialogue interreligieux, c'est pas de créer un front des religions contre le reste de l'humanité qui ne serait pas religieuse. Voilà, l'idée du dialogue interconvictionnel, c'est justement cet élargissement du dialogue à toute l'humanité. Parce que moi, je vais vous dire, personnellement, je suis chrétien, mais je sais que cette conviction est partagée par beaucoup d'amis musulmans ou d'amis juifs ou même d'amis athées. Moi, ma conviction, c'est que la famille humaine forme une seule et même famille. Voilà, il y a une famille humaine. Et que notre vocation, aussi bien de chrétiens, de musulmans, de croyants et même de non-croyants, notre vocation humaine, c'est de contribuer à réconcilier cette famille humaine et à découvrir que nous sommes bien d'une même famille, celle de l'humanité.
Et cette contribution, cela passera notamment par une marche ce dimanche à Paris à 14h, place du Panthéon.
Voilà, c'est ça, parce que nous avons choisi de faire une marche qui va durer 2-3 heures. On va partir du Panthéon, on va passer devant des lieux symboliques. Alors le Panthéon, c'est déjà un haut lieu symbolique, symbole de la République française, hein, c'est vraiment l'un des grands symboles de la République. Et puis ensuite, on va passer, donc vous voyez, en termes de conviction, on commence déjà par, on vise très large, hein. Et puis après, on va passer devant le grand séminaire israélite de France. Puis, on va passer devant la grande mosquée de Paris. Nous serons reçus par le recteur. Et puis, nous allons passer devant l'Institut du monde arabe. On sera reçus par Jack Lang. Et enfin, nous allons nous diriger vers le théâtre de l'Odéon. Tout ça, c'est dans le quartier latin, pour ceux qui connaissent Paris. et on terminera devant l'église Saint-Sulpice, qui est la plus grande église catholique de Paris, et qui aujourd'hui remplace la cathédrale Notre-Dame, puisque, comme vous le savez, Notre-Dame n'est plus accessible le temps des travaux. Et donc, on va terminer par une grande fête sur le parvis de l'église Saint-Sulpice. Donc, vous voyez, notre idée, c'est de relier des lieux, mais pas simplement pour relier des lieux, des hauts lieux symboliques, mais pour relier les gens, pour nous relier les uns aux autres et découvrir la fraternité qui nous unit.
Vous êtes journaliste à la vie, vous êtes aussi auteur, compositeur, interprète. Cette rencontre, elle passe également par la musique pour vous ?
Ben complètement. D'ailleurs, cette année, elle va être marquée par la musique. Je vais moi-même chanter, si je le peux, parce que je vais avoir beaucoup de responsabilités dans cette marche, puisque je suis moi-même le président du comité d'organisation, donc qui est la SIMPA, la coordination interconvictionnelle du Grand Paris, qui est une instance régionale qui regroupe une trentaine d'associations engagées dans le dialogue interreligieux et interconvictionnel. Donc je vais avoir pas mal de responsabilités ce jour-là, mais j'ai prévu de chanter. Il y aura également des chanteuses arabes, des chanteurs musulmans, des groupes de musique, de la musique classique, des bouddhistes qui vont venir avec un quatuor à cordes, etc. Donc la musique, justement, est un des moyens formidables de rencontre entre nos diversités et de communion les uns avec les autres. Donc il y aura beaucoup de musique tout au long du parcours, effectivement. Ça va être un peu la clé de voûte cette année de notre marche.
La campagne présidentielle a été marquée notamment par les questions liées à l'identité. Vous estimez que ce dialogue, cette rencontre, elle est particulièrement importante cette année, en cette période ?
Bien sûr, moi je vais vous dire, je pense qu'il y a une dimension politique à cette marche. Non pas au sens politicien du terme, entendez bien, mais politique au sens de la cité, au sens du vivre ensemble justement, et au sens de la construction de la cité. Donc il y a une dimension politique, c'est évident, et tant mieux, parce que c'est ce qui fait qu'on n'est pas dans l'abstrait, c'est concret le vivre ensemble. Et c'est pas facile, c'est un combat. C'est pas facile, c'est pas gagné, hein. Il s'agit pas d'être dans la béatitude, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On sait bien que c'est un combat la paix, on sait bien que c'est un combat le vivre ensemble. Mais justement, nous voulons marquer cet engagement sans prendre aucune position partisane, parce que les gens qui pratiquent le dialogue interconvictionnel sont sur toutes les pièces de l'échiquier, ou presque en tous les cas. Mais en tous les cas, c'est sûr que notre marche dénonce quelque part, de facto, le refus de l'autre, tout ce qui est xénophobie, tout ce qui est racisme, tout ce qui est islamophobie, tout ce qui est antisémitisme, n'a pas sa place dans une marche comme la nôtre. Donc en ce sens-là, cette marche est aussi une prise de position politique au sens le plus noble du terme.
Laurent Gribowski, président de la coordination interconvictionnelle du Grand Paris, au micro de François-Xavier de Calonne. La France condamne l'agression qui a visé le consulat général de Turquie à Boulogne-Billancourt. Des tirs de mortiers d'artifice ont visé le consulat vers 2h40 dans la nuit de mercredi à jeudi, sans faire de blessés. L'origine de ces tirs n'a pas été communiquée. Le Quai d'Orsay précise suivre la situation avec la plus grande vigilance. En Algérie, l'ancien dirigeant de l'Union Générale des Travailleurs Algériens a été écroué après avoir été entendu dans une affaire de corruption. Abdelmadjid Sidi Saïd, ex-dirigeant de l'UGTA, était un proche de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. C'était aujourd'hui le deuxième jour du Maghreb Orient des Livres qui se poursuivra jusqu'à demain soir à l'Hôtel de Ville en partenariat avec Radio Orient. Demain, un hommage sera rendu à Marie-Louise Belharbi, célèbre libraire de Casablanca qui a accompagné le Maghreb des Livres dès sa création. On écoute le président de Coup de Soleil qui organise l'événement, Georges Morin.
Alors Marie-Louise Belharbi est une dame extraordinaire, vraiment. Qui est très, donc alors non, c'était non seulement la plus grande et la plus célèbre libraire du Maroc. Elle avait la librairie Le Carrefour du Livre dans le quartier du Maarif à Casablanca, et donc elle nous a contacté dès qu'elle a vu que l'existence de l'association Coup de Soleil, et surtout elle a été à l'origine du Maghreb des Livres, parce que elle et Rachid Bimouni, il y a deux personnages importants, c'est Marie-Louise Belharbi, française mariée à un Marocain, qui est née à Montpellier, puis qui s'est installée ensuite à Casablanca avec son mari, Monsieur Belharbi, et puis qui est donc la maman d'une grande journaliste qui est un médien à Tanger, et de Malek, qui est un des plus grands chanteurs marocain, qui est le fils de Marie-Louise, voilà, qui est donc, qui, et les deux seront là, bien entendu. Et donc, Marie-Louise, en 1994, elle est venue, en 1993, elle est venue à Paris, on se voyait très souvent au moment où j'allais au Maroc, où elle venait nous voir. Et, mais, donc, on se connaissait, bien sûr, parce qu'André Fall s'est intéressé dès le départ à Coup de Soleil. Et comme au même moment, en 93, Rachid Memouni venait de s'exiler au Maroc, puisqu'il avait été menacé par les islamistes en Algérie. Il était à Tanger, et évidemment, il a très vite connu Marie-Louise Balarbi, et tous les deux nous sont venus me voir un jour en disant, mais Georges, il y a de plus, tu fais un travail formidable avec Coup de Soleil, mais c'est dommage que tu ne fasses que des rencontres comme ça, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Il y a une telle floraison de jeunes auteurs, de jeunes éditeurs dans les trois pays du Maghreb, que du Maghreb central. Il faut absolument que tu mettes tout ça en lumière. Il faut en faire un grand événement sur 1, 2, 3 jours, voilà, et puis un vrai festival du livre, voilà, et puis mais consacré aux écrivains, encore une fois, du Maghreb, mais avec l'acception de Coup de Soleil, c'est-à-dire le Maghreb de France et le Maghreb du Sud, hein, voilà, parce que pour nous ces deux Maghrebs, ils sont importants aussi importants l'un que l'autre. Alors il a fallu que ce soit donc une libraire franco-marocaine et puis un écrivain algérien qui m'amène moi au CNL, moi qui étais à Paris, ils m'ont amené au CNL et le CNL nous a été formidable. Ils nous ont tout de suite dit, bien entendu, c'est une très bonne idée. Donc on a commencé par faire 4 heures, je crois, un samedi après-midi au CNL. Et là aussi, coup de bol, Rachid Memouni, qui était donc l'invité d'honneur. Il arrive avec un monsieur, il me dit, est-ce que tu connais ce monsieur? Il dit, non, je connais pas. Et il me présente Mohamed Choukri, donc le grand écrivain marocain de Tanger. Et donc, voilà, on a eu la double bénédiction, si je puis dire, d'un grand écrivain algérien, d'un grand écrivain marocain. C'était un bon départ. Et puis voilà, après, depuis, on a grandi. Et puis voilà, je vous ai raconté un peu le parcours de Coup de Soleil et surtout du Maghreb des Livres, voilà.
Et donc, pour terminer, il y aura un concert de Ouria Aïchi ce dimanche.
Oui, alors, Ouria Aïchi, c'était aussi une grande amie qui est à Coup de Soleil aussi. Elle était avec nous en 85, quand on a créé Coup de Soleil, et puis évidemment, elle nous a toujours suivis. Et alors, elle est formidable parce qu'elle est originaire, bon, elle est franco-algérienne, elle est originaire des Aurès, et elle a une voix extraordinaire, et elle chante a cappella, donc c'est-à-dire uniquement avec un violoniste. Elle chante de magnifiques chants des Aurès, qui sont des chants très, très prégnants, et donc elle les chante dans ce langage, en fait dans cette langue berbère qui est en usage dans les Aurès, le tamazir, et qui est donc voilà, elle chante a cappella, et c'est un vrai régal, enfin vraiment on frissonne rien que de l'entendre chanter, c'est absolument sublime.
Georges Morin, président de Coup de Soleil, 3e journée du Maghreb Orient des Livres ce dimanche à l'Hôtel de Ville de Paris en partenariat avec Radio Orient. Cette édition est terminée, merci de votre fidélité.